Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule radio. Mon nom est Marc Bouchard et je vous souhaite la bienvenue à notre émission hebdomadaire sur l'actualité automobile. Aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière. On va évidemment beaucoup parler de voitures, mais c'est qu'au cours des derniers jours, j'ai eu l'occasion d'assister à deux événements un peu différents. Le premier, c'est une rencontre avec les dirigeants de Mitsubishi Canada qui en ont profité pour nous présenter le nouveau Mitsubishi RVR 2020, un véhicule qui a été légèrement remodelé et dont il sera question un peu plus tard. J'ai aussi une autre opportunité, celle d'aller au lancement de Polestar dans la région de Montréal. Pourquoi ça s'est fait là? Ben écoutez, ça a fait le tour de l'Amérique du Nord, Polestar. Polestar, vous le savez, c'est une division de Volvo. D'ailleurs, on aura tous les détails un peu plus tard. Et c'est à Montréal qu'a été annoncé le premier espace Polestar en Amérique du Nord, et ça appartient au groupe Park Avenue, que l'on connaît bien, qui est propriétaire de différentes concessions. Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer Hugues Bissonnette. Monsieur Bissonnette, c'est le titre exact, ce serait chef de pays, ce qui est un peu une traduction n'importe quoi, mais dans l'ensemble, c'est le principal dirigeant de Polestar au Canada. D'ailleurs, la journée de notre rencontre, c'était la journée de sa nomination officielle dans les médias, ainsi que de l'annonce du premier espace Polestar. Bref, une émission chargée. On aura aussi deux essais routiers, puisque j'ai eu l'occasion de faire deux essais la semaine dernière, soit la Toyota Corolla Hybride 2020, un véhicule qui m'a quand même beaucoup étonné, et le Nissan Pathfinder Rock Creek. Je dirais presque, pas un revenant, mais disons un véhicule qui commence à dater un petit peu. Alors tout ça, évidemment, dans votre émission Ça roule. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous rejoindre en nous écrivant à info@saroule.com ou sur la page Facebook, bien sûr, de Ça roule Radio. Je vous parlais de Mitsubishi. Écoutez, Mitsubishi, vous le savez, c'est une compagnie qui a commencé il y a quelques années. En fait, au début des années 2000 au Canada, elle était de retour. C'est une compagnie qui n'a pas toujours eu bonne presse, soyons francs, parce que certains de ses véhicules n'étaient pas nécessairement à la hauteur des attentes. Or, au fil des ans, on a quand même présenté des véhicules intéressants et des véhicules qui ont été populaires. Populaires, entre autres, à cause de la garantie, une garantie de 10 ans qui est une des meilleures de l'industrie, il faut le dire. Et populaires aussi parce que ce sont quand même des véhicules efficaces et des véhicules pas très dispendieux. Bien sûr, il existe la Mirage. La Mirage, on en parle, c'est la petite voiture qui sera maintenant disponible uniquement en version hatchback. On a décidé pour 2020 d'abandonner la version G4 berline, qui n'était pas nécessairement un succès au niveau des ventes. Parmi les autres modèles, évidemment, le plus populaire de tous, c'est le Outlander, qui s'est écoulé à plus de 100 000 unités au Canada depuis son lancement, incluant la version hybride branchable que l'on connaît et qui a connu un certain succès. Il y a aussi le Eclipse Cross, bon, dont le nom est un peu douteux, mais dont le véhicule, les qualités du véhicule sont indéniables. C'est un petit véhicule agréable, bonne motorisation, un peu difficile sur autoroute, mais moi j'ai eu l'occasion d'aller entre autres à Québec et j'avais des passagers particuliers, mes deux chiens, vous le savez, je vous en ai déjà parlé, et ça a été quand même une randonnée fort intéressante, quand même agréable, et même si le moteur n'est pas très puissant, quand même un excellent moteur. Et il y a le RVR. Le RVR, c'est un véhicule très populaire partout au Canada, mais surtout au Québec. 41% des ventes du RVR ont été faites au Québec. D'ailleurs, à peu près 50% des ventes de Mitsubishi sont faites au Québec, ce qui donne une idée là, de l'importance du marché québécois. Le RVR, on l'a remodelé en 2020. On l'avait d'abord présenté dans les grands salons en Europe. Et là, c'était, je dirais, une apparition publique à Montréal en présence du président de Mitsubishi. Parce que le véhicule arrive ou est déjà arrivé chez les concessionnaires. Parmi les grandes nouveautés, on arrive vraiment avec une refonte du véhicule au niveau esthétique essentiellement. C'est-à-dire que c'est surtout la partie avant qui a été remodelée. On arrive vraiment avec une partie avant, un fascia qui est très proche d'une espèce de gros bouclier. J'avoue que c'est un peu intense comme changement. On a écarté un peu les phares anti-brouillard. On a augmenté la calandre. La calandre est jolie, mais elle est très, très imposante. Et ça donne l'impression que le véhicule est peut-être plus imposant qu'il ne l'est en réalité. On a aussi modifié les feux de position arrière, en modifiant un peu la forme, et on a mis entre autres des grillages et des trucs comme ça. Donc c'est vraiment un redesign assez particulier, assez léger à l'extérieur, bien que la partie avant, là, c'est indéniable, on voit rapidement les changements. On voit aussi qu'à l'intérieur, le RVR a subi quelques modifications. Rien, encore une fois, de particulièrement édifiant. On a modifié un peu l'écran central, on a amélioré quelques éléments, mais on n'est pas en terrain inconnu si vous êtes déjà quelqu'un qui connaissait le Mitsubishi RVR. Sous le capot, pas de changement, deux moteurs au choix, le 2 litres 4 cylindres de 148 chevaux, 145 livres-pieds de couple, qui fait le travail, mais qui n'est pas nécessairement exceptionnel. On préfère plutôt le moteur 2.4 litres qui, lui, monte à 168 chevaux et 167 livres-pieds de couple. C'est évidemment, les deux sont jumelés à une boîte à variation continue. Le 2.4 est définitivement un meilleur choix dans le cas du RVR. Là. Il offre plus de polyvalence, plus de nervosité et définitivement de meilleures performances. Il faut aussi savoir que le RVR est maintenant disponible, en version à rouage intégral. Les prix, écoutez, on peut l'avoir en version traction, là, qui est le modèle d'entrée de gamme, 22 998 $, ce qui est correct, mais qui a surtout une bonne gamme d'équipements, il faut le dire, incluant des sièges chauffants, ce qui n'est pas négligeable au moment où l'automne et l'hiver approchent chez nous. La première version all-wheel drive, cependant, arrive à 25 498 $ pour le fameux all-wheel control. Il faut le dire, le all-wheel control de Mitsubishi, c'est un excellent système intégral qui fonctionne très bien. Alors, ça vaut la peine d'investir. Et on le sait, 80% à peu près des ventes de véhicules RVR sont faites avec ce rouage intégral. Vous pouvez aussi vous diriger vers des versions un peu plus élevées, un peu plus équipées, notamment la GT à 33 998 $, qui arrive, bon, toit panoramique, la fameuse chaîne Rockford Fosgate, chaîne audio avec l'énorme haut-parleur dans le coffre, dont on se rappelle parce qu'il est là dans à peu près toutes les versions de la voiture, toutes les déclinaisons de Mitsubishi. Bref, c'est quand même un véhicule qui est intéressant, un peu dispendieux à 34 000 $. Il faut rappeler que l'année passée, on avait aussi une version Black Edition, évidemment, qui, comme son nom l'indique, était essentiellement noire. Cette année, cette même version s'appelle Limited Edition. Encore une fois, on mise beaucoup sur le noir, le cuir à l'intérieur, volant chauffant et d'autres éléments de cette nature-là. Donc, c'est une nette progression pour le RVR, même si on n'a rien changé du point de vue mécanique. C'est quand même intéressant. Intéressant aussi de voir où s'en va la compagnie. On a eu l'occasion de discuter avec le président JJ, monsieur, écoutez, le nom exact, je ne sais pas. C'est particulier, c'est un homme qui a une histoire un peu particulière. C'est un Coréen qui dirige une compagnie japonaise après avoir fait son service militaire aux États-Unis. Alors, pas certain de comprendre le cheminement, mais c'est un homme qui arrive vraiment avec une vision pour Mitsubishi, qui veut développer des choses, qui nous a entre autres parlé d'une nouvelle méthode, si on veut, d'avoir des concessions urbaines à plus petit espace, de maximiser les transactions en ligne. D'ailleurs, la technologie de transactions en ligne de Mitsubishi, développée au Canada, s'exporte maintenant vers d'autres pays. Bref, je pense que le nouveau président amène vraiment un nouveau dynamisme à cette compagnie-là et on nous a promis qu'au cours des 18 prochains mois, il y aurait pas mal d'actions du côté de Mitsubishi. Alors, ce sera à suivre, mais je pense que ça vaut la peine parce que c'est une compagnie qui, jusqu'à maintenant, remporte quand même un certain succès chez nous et qui devrait permettre justement d'avoir des nouveaux modèles, notamment des modèles électrifiés, incluant le premier modèle qui va être partagé avec une plateforme Renault et Nissan parce qu'on le rappelle, Mitsubishi fait aussi partie de l'alliance Renault-Nissan. Alors voilà pour le Mitsubishi RVR. Je vous avais promis aussi une rencontre avec Hugues Bissonnette de Polestar. Polestar, je vous le rappelle, c'est une nouvelle compagnie. Ce n'est pas le Polestar Performance, mais M. Bissonnette l'explique très bien dans l'entrevue que j'ai fait avec lui un peu plus tôt cette semaine à Montréal. La qualité sonore n'est pas excellente. Il y a un peu d'écho. On était dans une galerie d'art contemporain et on s'est mis à l'écart pour ne pas avoir trop de monde. Mais ça fait qu'ils ont un peu d'écho. Vous allez quand même très, très bien comprendre. Alors, je vous invite à écouter l'entrevue que Hugues Bissonnette de Polestar m'a accordée au cours des derniers jours. Et après ça, on fait une petite pause et on revient avec nos essais. Alors, on est avec Hugues Bissonnette, qui est maintenant le nouveau directeur de Polestar Canada. Bon, le titre exact, on va oublier l'appellation. On va de toute façon d'abord présenter ce qu'est Polestar. Parce que Polestar, auparavant, c'était une espèce de division de performance de Volvo. Mais là, on est dans un tout autre registre.
Oui, absolument. La marque Polestar Engineered est toujours sous la commercialisation de la marque Volvo. Donc, la S68 Polestar Engineered, par exemple, qui est disponible aujourd'hui, ça va demeurer. Mais Polestar, l'entité, c'est une entité complètement séparée qui est La propriété de Volvo puis du groupe Geely à part égale, à 50 % chacun. Mais c'est vraiment une marque différente qui va lancer ses propres produits, qui a sa propre stratégie de commercialisation, qui a sa propre équipe de direction, puis évidemment ses propres produits ciblés, puis la façon aussi dont ces produits-là vont être commercialisés, la façon dont les gens vont acheter est différente.
Mais pourquoi on n'a pas tout simplement intégré Polestar sous Volvo? Parce que, bon, on va le dire, actuellement, oui. Polestar, c'est la division électrique. En fait, vous avez que des produits
que
électriques.
Des produits électriques.
Ou électrifiés, parce oui. que le Polestar 2, elle est branchable.
La Polestar 100%, c'est la 1.
C'est la 1, je m'excuse, parce que les noms sont un peu mélangeants, hein, la 1 et la 2.
Oui.
Mais, c'est donc des produits électrifiés. On aurait pu tout à fait se lancer sous Volvo, parce que Volvo a aussi un volet électrifié.
Oui, oui, absolument. C'est une bonne hypothèse. Par contre, on a vu l'opportunité de pouvoir lancer des produits qui sont différents, qui sont ciblés à une clientèle aussi qui est différente, qui désire quelque chose de plus progressif, avec un design plus progressif, des technologies aussi qui sont plus adaptées à cette clientèle-là. La façon aussi de consommer les produits au niveau de... on parle des espaces Polestar qui vont être implantés pour commercialiser le produit comme tel. L'approche va être beaucoup différente de ce qu'on connaît aujourd'hui.
Différente dans le sens de genre un service concierge, un peu comme on a commencé à le faire avec d'autres marques de luxe?
Oui, absolument. Service concierge au niveau du service, mais aussi au niveau de la transaction d'achat. Tout va être fait en ligne. Si un client décide de consommer ou d'acheter un véhicule de la maison, dans le confort de son salon, on va pouvoir le faire de A à Z. À 100 % la transaction peut être faite, va être faite en ligne. Donc, si le client décide de se déplacer dans un espace Polestar qui vont être nos boutiques au Canada, va pouvoir consommer le produit avec nos experts de produits qui vont être sur place, va pouvoir aussi faire des essais routiers sur place, mais quand on arrive au niveau de la transaction, ça va toujours se faire en ligne.
Mais les espaces Polestar ne relèvent pas de Polestar, vont quand même appartenir à des concessionnaires. On sait, vous avez déjà annoncé le premier espace Polestar avec le groupe Parc Avenue au Québec, oui. à Montréal. D'une part, on va parler du choix pourquoi Montréal pour la première implantation. Et deuxièmement, est-ce que effectivement Polestar va être propriétaire de ces espaces-là ou ce sera toujours par le biais de concessionnaires?
Ça sera toujours par le biais de concessionnaires au niveau de l'Amérique du Nord. On a vraiment choisi, on a un réseau établi déjà, on a des partenaires établis, en qui on a confiance, en qui on a des liens d'affaires établis depuis plusieurs années. Park Avenue était définitivement un choix simple et un choix sain. On a une belle relation. La vision est la même au niveau des processus d'affaires. Donc, c'est un choix qui était facile. Puis, au niveau de la commercialisation, ça va toujours soulever d'un concessionnaire, Volvo.
Et pourquoi le premier à Montréal?
Pourquoi le premier à Montréal? Le marché du Québec, c'est un marché qui est très important, qui est très supporté au niveau de l'électrification. On a vu une opportunité. Le but, c'est d'avoir trois espaces au Canada d'ici milieu 2020. Donc, au niveau de la commercialisation ou l'opération, les trois concessions devraient plus ou moins ouvrir en même temps. La nomination de Park Avenue était la première en Amérique du Nord, mais les autres vont venir. Et ils vont probablement être en opération plus ou moins au même moment.
Évidemment, il faut parler produits, parce que là, c'est bien beau, une division comme celle-là, oui. mais les produits qui s'en viennent, vous l'avez dit, offrent une technologie différente. Qu'est-ce qu'ils ont de différent, les produits Polestar?
Les produits Polestar, au niveau du design, en partant, c'est un design qui est beaucoup plus progressif, beaucoup plus contemporain, avant-gardiste même, je dirais. Au niveau de l'intérieur aussi, on a un intérieur complètement vegan.
C'est-à-dire
qu'il n'y a pas de matériaux, aucun cuir, pas de matériaux animal dans le véhicule. Le cuir est disponible en option, par contre, mais on peut déclarer que c'est un intérieur vegan. On a aussi la nouvelle technologie. On va être le premier véhicule avec la Polestar 2 à introduire le nouveau système, dans l'industrie, je devrais dire, non seulement un véhicule électrique, mais dans l'industrie totale. On va être le premier avec la Polestar 2 à introduire le nouveau Android, le nouveau système d'infodivertissement, Android Automotive OS, qui est le système opérationnel de la voiture, si on veut. Donc, il y a une belle opportunité de ce niveau-là au niveau de la technologie.
Au niveau purement mécanique, si l'on peut dire, on l'a dit, ce sera donc des produits électriques. La première qui arrive, elle arrive bientôt, elle arrive au mois de mars, je pense.
La Polestar 1, les premières livraisons clients devraient se faire environ au mois de mars.
Okay.
La production commence à la fin de cette année.
Et c'est quoi comme produit, c'est quoi comme autonomie?
La Polestar 1, c'est un hybride enfichable. de 600 chevaux, donc une combinaison de batterie et moteur à combustion. On parle d'environ 150 km d'autonomie. Un prix de détail suggéré de 199 000 Canadiens. C'est un véhicule qui est très unique, à distribution très limitée. C'est un véhicule qui est assemblé à la main dans notre plant à Polestar en Chine, à Chengdu plus particulièrement, avec une structure en carbone complètement. Donc, c'est un véhicule qui est très intéressant, mais très différent, j'aurais dit, de la Polestar 2.
Polestar 2 qui, elle, va être plus... je dirais plus grand public, si l'on peut dire.
Oui, plus grand public, définitivement, avec un prix de lancement, la version de lancement à 69 900, avec la plupart des caractéristiques standards dans le véhicule.
100% électrique, cependant.
100% électrique, avec rouage intégral, autonomie d'environ 450 km. La technologie Google OS, comme j'ai mentionné. La seule option qui va être disponible, ça va être le package performance, ou l'ensemble performance, avec les roues 20 pouces, le châssis all-ins, les ceintures jaunes. Donc, c'est une version plus performante.
Un des gros débats actuellement au niveau des voitures électriques, bien entendu, c'est toute la capacité de recharge. Oui. On sait que Porsche, par exemple, qui arrive avec sa Taycan électrique, arrive aussi avec un réseau qui s'appelle Electrify Canada, qui se veut à très haute capacité de recharge. Quelles sont les capacités? Est-ce que Polestar se dirige vers ça, ou si vous utilisez les infrastructures actuelles sans nécessairement miser sur une recharge plus rapide comme pourrait le faire Porsche, par exemple?
On va prendre avantage des infrastructures actuelles, évidemment. Par contre, on est en pourparlers, je dirais, dans différents pays où on va lancer la marque pour faire des alliances stratégiques. Pas rien que je peux annoncer aujourd'hui. Ça va être annoncé en temps opportun, mais on est très avancé dans les pourparlers pour différentes alliances avec différents partenaires. Donc, on s'en va là.
Écoutez, M. Bissonnette, merci beaucoup. Je me permets, c'est votre première journée officielle puisque ça a été annoncé ce matin, votre nomination. Alors, je me permets de vous féliciter et de vous souhaiter bonne chance et de souhaiter bonne chance à Polestar.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup.
Merci. Alors, on est de retour après cette courte pause. Alors, on vous invite, bien sûr, à porter attention à ce que M. Bissonnette a dit. Je pense que Polestar risque d'être extrêmement populaire chez nous. Évidemment, on parle de la Polestar à 70 000 $, pas de celle à 199 000. Mais si jamais vous achetez celle-là, appelez-moi, j'aimerais bien en faire l'essai. Ceci étant dit, là, on va parler d'essais un peu plus terre-à-terre, notamment celui du Nissan Pathfinder Rock Creek. OK. Le Nissan Pathfinder, c'est un véhicule qui n'est pas nouveau. C'est un véhicule qui a été remanié il y a 6 ou 7 ans, qu'on a complètement modifié à ce moment-là, qui est passé vraiment au titre d'utilitaire sport avec de bonnes qualités hors route et qui est toujours efficace, mais qui commence à vieillir un peu, malheureusement. On essaie de le rajeunir en lui insufflant de nouvelles versions. C'est le cas de la Rock Creek. Rock Creek, c'est essentiellement un traitement esthétique. On a modifié des trucs, notamment la couleur. Ça, j'avoue que la couleur était très belle, par exemple. Un vert, ça s'appelle, attendez, le vert peint de minuit. C'est magnifique. Pour le reste, écoutez, on arrive avec des jantes de 18 pouces. On arrive avec des garnitures autour des arches de roue. On arrive avec une calandre particulière, des bottes pare-chocs, des rétroviseurs modifiés. On a aussi des écussons un peu partout. À l'intérieur, on a des logos un peu partout et un certain niveau d'équipement. Mais on ne change absolument pas la mécanique. À l'intérieur, on se retrouve avec un véhicule qui date de quelques années, malheureusement. Et c'est le cas aussi de son système d'infodivertissement, qui n'est pas nécessairement super intuitif, qui n'est pas facile à manipuler. Il y a beaucoup de boutons. Et malheureusement, toujours pas d'Apple CarPlay ni Android Auto qui ne sont pas intégrés là-dedans. Alors, c'est pas nécessairement la chose la plus ergonomique au monde. Ça va pas mal, c'est facile de s'y retrouver après un certain temps, mais quand même, c'est pas le plus ergonomique de tous les systèmes. Un bon mot cependant pour le confort des sièges que j'ai bien apprécié. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Et la prise en main du volant, qui a un bon boudin. Ça a l'air un peu nono, mais quand on conduit un véhicule de la taille du Pathfinder, on veut avoir cette sensation d'être en parfait contrôle. Et la taille du volant, il joue un rôle extrêmement important. Alors donc, ça, j'ai bien aimé ça. Pour le reste, écoutez, je suis obligé de vous dire que c'est un véhicule qui vieillit un peu. C'est un véhicule qui est pratique, là. Il est très grand. Un volume de chargement quand même, 2260 litres. Ce n'est pas le plus grand de la catégorie. Par contre, facile d'accès. Le seuil de chargement est assez bas. Tout ça devient à plat. Donc, on est capable quand même de charger beaucoup de matériel quand on descend le tout. C'est un véhicule qui est agréable, pratique et qui a des capacités hors route indéniables. Ça, il faut le dire. Là où j'ai un problème, cependant, bon, le moteur, c'est le V6 3.5 litres de Nissan que l'on connaît, 284 chevaux, avec une transmission qui est la Xtronic à variation continue, qui, elle, joue très, très bien son rôle dans le cas du Nissan Pathfinder. Elle ne nous laisse jamais tomber et on a vraiment l'impression que tout est très, très bien jumelé et ça permet une capacité de remorquage de 6000 livres, ce qui est quand même important dans un créneau hyper compétitif comme celui-là. Évidemment, là, si vous aimez remorquer, c'est quelque chose d'intéressant et c'est quelque chose que vous allez devoir surveiller parce que rares sont les utilitaires sport de cette taille qui offrent autant de capacités de remorquage. Là où j'ai un problème, en fait, c'est pour le reste. Le véhicule est excellent. Le véhicule va bien. Il n'y a pas de défaut majeur. Ma seule phrase, en fait, et mon épouse me regardait avec un drôle d'air, mais je lui ai dit que je trouvais que le véhicule manquait d'âme. C'est-à-dire que quand on conduit le Pathfinder, on est au volant d'un véhicule, mais ça fait une conduite qui est assez générique. Les suspensions sont correctes, mais sans grand frisson. L'insonorisation est bonne. On n'est pas vraiment à l'étroit. C'est quand même un véhicule qui a de bonnes dimensions. Tout est là, mais il manque un peu de personnalité, il manque un peu de précision, il manque un peu de raffinement. Et ça, j'avoue que ça m'a un petit peu dérangé face à ce véhicule-là, qui autrement a quand même de bonnes capacités. Là. Je le répète, c'est un outil pour aller en route, c'est un outil pour aller au chalet avec beaucoup d'espace, beaucoup de capacités de remorquage. Un véhicule qui n'est pas très dispendieux non plus quand on le compare à ses rivaux. Écoutez, dans le cas du Rock Creek, on parle de 33 000 $ ou à peu près de base pour le Pathfinder. Mais si là, on prend le Rock Creek, là, évidemment, écoutez, c'est vraiment beaucoup plus dispendieux. On parle de 42 000 $ ou à peu près. Là. Évidemment, c'est plus ou moins quelques centaines de dollars. Mais on est donc dans un créneau quand même important. Ça, le gros problème, en fait, de ce véhicule-là, c'est qu'il se trouve en confrontation avec des véhicules qui ont évolué au fil des dernières années. Pensez au Subaru Ascent, pensez au Kia Telluride, au Hyundai Palisade que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Pensez au CX-9, par exemple, au nouveau Toyota Highlander. Donc, on est vraiment dans un créneau extrêmement compétitif. On a eu l'occasion, je vous en ai parlé abondamment, du Honda Pilot qu'on est allé essayer, entre autres, en Virginie. Et donc, on se retrouve vraiment là, face à des gros compétiteurs. Il va falloir renouveler le Pathfinder du côté de chez Nissan. Ce n'est pas un mauvais véhicule, loin de là, mais c'est un véhicule qui, comme je l'ai dit, manque un peu de raffinement, manque un peu d'âme, manque un peu de plaisir de conduite. Et ça, ben, c'est un peu désagréable au niveau de la totalité de l'ensemble. Par contre, écoutez, je vous l'ai dit, c'est un bon véhicule. C'est un véhicule que je conseillerais aux gens quand même. C'est un véhicule que je suggère, mais qui ne vous procurera pas le grand frisson, ça c'est clair. J'ai fait un autre type d'essai aussi au cours de la dernière semaine, et c'est la Toyota Corolla Hybride 2020. Toyota Corolla, écoutez, on le sait, c'est le véhicule par excellence que l'on qualifiait d'un peu ennuyeux à conduire, ennuyeux à regarder, ennuyeux sur toutes les coutures. C'est la 12e génération qui arrive en 2020, et chez Toyota, on a compris et on a complètement éliminé ce côté ennuyeux, notamment au niveau du design. On arrive avec un véhicule qui a vraiment beaucoup plus de style. La partie avant, elle est similaire à celle de la version Corolla Hatchback que l'on a vue l'année dernière et que je trouvais absolument mignonne. Et l'ensemble est définitivement plus sophistiqué, plus raffiné, plus moderne quand on regarde le look extérieur. Même chose au niveau de l'intérieur. En passant, j'ai trouvé très drôle que tout le monde l'a soulevé, mais quand même, j'aime bien le rappeler. Quand Toyota a procédé au lancement de sa nouvelle Corolla 2020, une des premières choses qu'ils ont annoncées, c'est qu'ils abolissaient le beige dans les couleurs disponibles pour la voiture. Je pense que ça donne une idée que Toyota était parfaitement au courant de la perception que les gens avaient de son véhicule et de ce que ça donnait. Ceci étant dit, on arrive maintenant avec une nouvelle version, la Corolla 2020, et une version hybride. Mais là, on n'a pas réinventé la roue. On a tout simplement pris la motorisation de la Toyota Prius, c'est-à-dire le 4 cylindres 1.8 que l'on a mis sous le capot avec une assistance électrique, et ça nous a donné un résultat quand même impressionnant. J'ai fait 4,5 litres au 100 de moyenne sans aucun effort d'économie de carburant. C'est-à-dire que j'ai conduit cette voiture-là tout à fait comme elle doit être conduite, sans me poser la moindre question quant à l'économie et sans conduire comme beaucoup de propriétaires de voitures hybrides le font en ménageant les accélérations et en s'assurant que le freinage se fait sur une plus longue distance. Donc, dans l'ensemble, c'est un véhicule qui, ma foi, serait capable probablement, avec un minimum d'effort, de descendre cette moyenne-là de façon marquée. Et ça, c'est quand même intéressant parce qu'on veut une voiture de cette nature-là. On veut une voiture économique et écologique. Donc, je pense que ça, c'est une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, bien évidemment, c'est qu'on a complètement changé la plateforme de la Corolla. On utilise maintenant la TGNA, la Toyota Global New Architecture, qui est en fait la structure de base qui prévaut dans toutes les Corolla, toutes les Toyota, excusez-moi, sur le marché actuellement, ou presque. C'est une structure qui est beaucoup plus rigide. C'est une plateforme qui permet d'augmenter et d'améliorer considérablement la méthode de conduite en limitant le roulis. Et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Alors, on se retrouve donc avec un véhicule qui est, sans être extrêmement stimulant à conduire, beaucoup plus agréable quand même, qui procure de bonnes sensations de conduite et qui nous permet d'avoir une économie de carburant, ma foi, assez intéressante compte tenu de la taille du véhicule. Parce qu'il faut le dire, c'est quand même relativement spacieux pour une compacte, bien entendu. Alors, je pense que c'est une belle réussite pour Toyota que cette Corolla hybride. Belle réussite aussi parce qu'en matière de prix, c'est quand même pas très dispendieux. On parle d'à peu près 25 000 $. Bien sûr, elle arrive avec un certain niveau d'équipement là, que je vais vous épargner. Vous êtes capable, comme moi, d'aller lire les fiches techniques sur Internet. Mais elle arrive avec un bon niveau d'équipement, avec quelque chose d'agréable, une liste assez complète. Et ça nous permet donc de la comparer à d'autres compacts du même genre. Et honnêtement, elle est tout à fait compétitive avec un véhicule qui est vraiment plus économique. Alors, écoutez, j'ai toujours pensé que Toyota était un véhicule, Corolla était un véhicule très fiable. Je continue de le croire. J'ai apprécié la qualité de la finition du véhicule. J'ai apprécié la fiabilité du moteur parce que c'est le même que la Prius qui n'a jamais eu de problème. Alors, j'apprécie maintenant aussi le design de la voiture. Donc, sincèrement, c'est une auto qui vaut la peine d'être considérée. Si vous êtes en marché de vous acheter une voiture hybride et que c'est ce que vous cherchez, bien, je pense que c'est une excellente idée d'aller voir de ce côté-là ce que l'on a à vous offrir. Écoutez, on va y aller rapidement de quelques petites nouvelles, là. C'est sûr qu'il y a toujours les salons qui s'en viennent, on vous le rappelle. Salon de Tokyo qui va être là dans quelques jours. Le salon de Los Angeles dans un mois au cours duquel on va présenter le fameux Mustang VUS inspiré de Mustang. Cette semaine, Ford a annoncé plutôt la mise en place d'un réseau de recharge. Mais attention, ça ne veut pas dire que Ford va construire des bornes de recharge. C'est plutôt qu'ils se sont associés avec Electrify America et Electrify Canada, semble-t-il, pour permettre un accès gratuit à tous les réseaux à la grandeur de l'Amérique du Nord, donc 12 000 bornes. Mais quand on parle d'accès gratuit, c'est strictement le membership. Le temps de recharge, lui, va continuer d'être facturé à tous les conducteurs, il faut le dire, mais ça va être accessible, toutes les bornes vont être accessibles via Ford Pass, et ça va être un seul réseau, finalement, qui va être accessible via Ford Pass. Donc, c'est une très, très bonne idée d'enfin centraliser tout ça. On va voir comment ça va s'appliquer dans la réalité. Bien sûr, on a hâte que Ford arrive avec des voitures électriques pour justifier ce modèle-là. Et enfin, une autre petite nouvelle très, très rapide. On vous avait parlé de la Porsche Taycan. J'avais assisté à la première mondiale à Niagara Falls. Mais là, on arrive avec une Taycan 4S. C'est en fait une version de base de la Taycan parce qu'on trouvait que le prix de base était un peu élevé, en fait. Avec la Turbo S et la Turbo. Bien là, le 4S, qui est la version d'entrée de gamme, arrive avec une pile un peu plus petite. Une puissance de 522 chevaux, ce qui est quand même pas vilain. Autonomie d'environ 360 km entre les recharges. Un 0-100 de 4 secondes. Mais surtout, et surtout, je pense que c'est là la particularité, c'est qu'on arrive avec un prix de 103 800 $US, donc 113 000 à peu près au Canada. Je pense que c'est une excellente nouvelle pour les gens qui voulaient s'acheter une Taycan, mais qui étaient un peu rebutés par le prix excessif des autres versions. Alors voilà qui met fin à cette émission de Ça roule radio. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr nous écouter sur notre site, sur le site marcbouchard.ca aussi. Vous pouvez nous télécharger sur les plateformes de Google Play, bien sûr sur Apple Store aussi, où on est sur Spotify, où on est aussi facile. Et abonnez-vous, ça nous fait toujours plaisir. Vous pouvez bien entendu nous écrire aussi sur info@saroulradio.com. Nous écouter sur sportradio.ca et sur Radio Média Plus, deux radios Internet qui sont nos partenaires depuis fort longtemps. Et bien entendu, me suivre aussi sur Twitter à Marc-Bouchard ou sur Instagram Bouchard-Marc. Alors voilà qui met fin à cette émission. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, moi je vous dis bonne semaine.